Voilà, béni soit le Seigneur. J'aimerais que l'on puisse, en effet, aller un peu plus loin et puis terminer ce dimanche matin, terminer avec ce sujet qui concerne le combat spirituel. Alors, quand je dis terminer, c'est un grand mot parce que qui peut se vanter de terminer un sujet biblique? C'est tellement vaste et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais je vais terminer en ce qui me concerne ce thème. Donc, nous y sommes dessus depuis déjà quelques semaines, et c'est une bonne chose de prendre le temps d'étudier la parole, de regarder ce qu'elle nous enseigne et ce qu'elle nous demande de vivre, en définitive, hein, pour que notre vie chrétienne soit une vie solide et avec des racines spirituelles profondes. Je voudrais très rapidement lire juste le verset dans Éphésiens 6, pour gagner un peu de temps, puisque nous allons lire un deuxième texte. J'en avais parlé dimanche dernier. Éphésiens chapitre 6. Et il est question, bien sûr, de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Hein ? Voilà. Et puis, également, de résister dans le mauvais jour. Ça arrive, hein, j'en ai parlé encore dimanche dernier, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis nous avons évoqué donc toutes ces armes, la vérité, d'accord, d'avoir à nos reins la vérité, la ceinture, donc la vérité, la cuirasse, deuxième arme, c'est la justice. Donc ensuite les chaussures, hein. Le zèle, être zélé, radieux. Chrétien, c'est quelqu'un de zélé, un disciple de Christ est quelqu'un de zélé. Et puis également le bouclier, donc la foi. On en reparlera de la foi, vous voyez. Et puis, on peut éteindre ainsi les flèches enflammées du malin. Et puis également le salut, le casque, le salut. Et dimanche dernier, et ce dimanche, et je vais terminer là-dessus, l'épée de l'esprit, qui est donc, voilà, cette dernière arme, une arme plutôt offensive, qui est la parole de Dieu. Et je rappelais ceci, c'est que le diable va tout faire pour essayer à nous éloigner de la parole. À partir du moment où on s'éloigne de la parole, on s'éloigne de Dieu. On ne peut pas dire je suis chrétien, puis voilà, je viens, patati patata, je chante, je loue, j'adore, enfin bref. Je suis là de temps en temps, et puis la parole de Dieu, je la mets de côté. Si je n'ai pas la parole de Dieu comme étalon dans ma vie, comme référence dans ma vie chrétienne, de disciple pour Christ, alors je vais pas du tout tenir ferme. Dès qu'il va y avoir une tempête, je vais y venir. Dès qu'il va y avoir un problème, je vais m'écrouler. Alors, le diable le sait. Donc, c'est une arme qu'il redoute, parce qu'en plus, elle est offensive. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, vous devez mener le combat. Mais pas attendre de dire, bon, le frère, le pasteur va le mener à ma place. Moi, je le mène pour moi. Je le mène pour vous dans le sens où je prie pour vous. Mais c'est pas suffisant. Il faut que vous le meniez pour vous, le combat. Sinon, vous n'allez pas tenir. C'est difficile. Donc, il va essayer à faire en sorte que l'épée que nous avons, l'épée de l'esprit, ben, soit moins utilisée. Et il veut ainsi décourager et annuler les efforts de ceux qui l'utilisent pour présenter l'évangile au perdu. Alors pour bien comprendre cela, cette deuxième partie sur cette arme offensive qu'est l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu, nous allons nous arrêter quelques instants, et je pense que c'est très bien de le faire, parce que c'est parfaitement imbriqué dans cette vérité. C'est dans Matthieu 13, verset 1er, la parabole du semeur. Et je lis donc ceci, Matthieu 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Jésus monta dans une barque et il va s'asseoir. Toute la foule se tenait sur le rivage et il va leur parler en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba, alléluia, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On saute quelques versets, verset 18. Vous tous, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je vais l'expliquer. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je vais en parler. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je vais en parler également. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Ça va? Je remercie le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi? Bon, je pense que vous n'êtes pas là ce matin, vous êtes fatigué. Tout simplement, vous pouvez me répondre quand je dis je sais pourquoi, ça ne me gêne pas. Hein. Tout simplement parce que Jésus a donné ici, et c'est la seule fois qu'il le fait, la signification d'une parabole. Vous lirez toutes les autres paraboles, il ne donne pas la signification. Bien qu'on peut la voir en étudiant la parole, son contexte, etc. Mais là, ça nous facilite le travail pour les prédicateurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais c'est intéressant en même temps de s'y arrêter et de mieux comprendre. Cette parabole, le Seigneur va en effet la donner à ses disciples, et puis à nous bien sûr, qui sommes aussi des disciples de Christ, lui appartenant, par le moyen de la foi. Cette parabole va attirer toute notre attention, essentiellement sur l'importance des terrains, puisque Jésus, quand il va l'expliquer, il va particulièrement insister là-dessus, les terrains qui vont être capables ou pas de recevoir la semence, c'est-à-dire la parole, la semence c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, bien sûr. Et tous ces terrains qui, donc la semence, la parole, les terrains c'est les cœurs, c'est votre vie intérieure, tous ces terrains, tous ces cœurs, en définitive, c'est votre cas ce matin, c'est votre cas régulièrement, quand vous venez le mardi soir, dans les temps d'études bibliques, de prière, le vendredi soir, temps d'édification, d'enseignement, d'évangélisation, le dimanche matin, lors des missions, etc. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, c'est donc cette semence qui va vouloir tomber avant tout au plus profond de votre être. Et la semence répandue, la semence que va jeter le semeur en question dans la parabole, c'est Jésus lui-même, le semeur qui va jeter cette semence sur le terrain, eh bien la semence qu'il jette, la semence qu'il répand, elle est la même, quel que soit le terrain. Une semence ne va pas changer, elle est la même. Elle a le même germe, elle a la même force de vie. La semence en elle-même a la vie. À savoir si le cœur est prêt à recevoir la vie. Et pas seulement une fois. Mais mes frères et sœurs, continuellement, on a besoin de revenir sur cette réalité que nous avons besoin, effectivement, tout au long de notre marche avec Dieu, de laisser la vie de Dieu, eh bien, prendre encore plus de force en nous. Un semeur sorti pour semer cette semence. Cette parole, Luc 8, 11 nous dit, la semence c'est la parole de Dieu. Pour recevoir cette parole, pour ensuite l'utiliser correctement, puisqu'on est dans le cadre de cette arme spirituelle qui est l'épée de l'esprit. Arme offensive, je le rappelle. Et cette semence, il y a en elle, le germe de la vie éternelle. Je disais, et j'insiste là-dessus, le germe de la vie éternelle, je disais que toutes les semences, bien sûr, sont un peu différentes parce que selon ce que l'on veut récolter, on va choisir sa semence en fonction. Mais en définitive, la semence, si je prends une semence de tournesol, ça sera toujours une semence de tournesol. Ça ne sera pas une semence de blé. Mais malgré tout, ce que je retiens ici, c'est que dans cette semence, quelle qu'elle soit, il y a la vie. Et je relisais encore ces dernières heures, pour ne pas faire d'erreur, que les scientifiques essayent encore aujourd'hui, à leur manière, pour être simple, à reproduire la semence, quelle qu'elle soit, quelle que soit la semence. Mais le problème, c'est que la technique qu'ils veulent employer, elle n'est pas du tout, adaptée. Et ils n'y arrivent pas. Ils ont réussi à reproduire une semence, mais ils n'ont pas réussi à y mettre la réalité du germe de la vie. Et s'ils veulent cloner une semence, s'ils veulent cloner un germe, il va falloir qu'ils prennent une semence, qu'ils retirent de l'intérieur la vie pour la mettre dans la semence qu'ils sont en train de créer. Mais c'est impossible. À partir du moment où ils retirent le germe de vie qu'il y a dans la semence, la vie s'arrête. Moi, je trouve que c'est très intéressant, vous voyez. Il faut savoir un petit peu gratter, fouiller, être curieux. Moi, je le suis, je pense que vous l'êtes. Mais soyez-le. Parce que tout ce que nous découvrons dans ce que les hommes désirent faire pour essayer à dépasser Dieu, on se rend compte qu'il n'y arrive pas. Alors, il y a toute une technologie aujourd'hui, une avancée. On a parlé du clonage, on a parlé... ou du moins on a entendu parler de ça, la bioéthique également, il y a tellement de choses. L'homme veut jouer, excusez-moi l'expression entre guillemets, à l'apprenti sorcier. Il veut essayer à dépasser Dieu, il veut essayer à être au-dessus de Dieu. Dieu a donné la vie, il crée la vie, il est la vie. Mais l'homme ne peut pas. L'homme va créer, je dirais créer, ou permettre à quelque chose d'exister par rapport à ce qui existe déjà. Ce n'est pas Dieu qui va utiliser ce que l'homme crée. C'est l'homme qui crée à partir de ce qui existe et qui vient de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est de Dieu. Et quand je prêche la parole, que mes collègues prêchent la parole, pasteur, que nos collaborateurs anciens prêchent la parole, ils prêchent la parole, non pas leur parole, notre parole, mais la parole de Dieu. Et si ça dérangeait quelqu'un, eh bien, qu'ils se posent la question, qu'ils se disent, mais mince, je suis en train de refuser ce que Dieu dit. Même si c'est un homme qui le prêche, quel qu'il soit. Regardez Jésus dans l'évangile, quand il prêchait le royaume des cieux, quand il prêchait la repentance, quand il prêchait la vérité, très souvent, qu'est-ce qui se passait? Bien, les hommes s'opposaient à ce qu'il prêchait. Les religieux s'opposaient. Les légalistes s'opposaient. Parce que ça les dérangeait, parce que la semence qu'ils prêchaient ou qu'ils lançaient, qu'ils répandaient, avait la vie. Soit je veux recevoir la vie, soit je ne la reçois pas. C'est un choix. Et les terrains, donc, vont représenter, effectivement, et c'est pour ça que j'ai parlé du fait de recevoir, les terrains vont représenter les dispositions de cœur. Le Seigneur ne s'est pas trompé, il connaît parfaitement sa créature. Ça représente les dispositions de cœur des divers auditeurs de la parole de Dieu. Je ne sais comment est votre cœur ce matin. Quel est le terrain de votre cœur? Le Seigneur le voit. Et l'épée de l'esprit, c'est important pour que je puisse l'utiliser correctement parmi toutes les autres armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable, pour ne pas le laisser me ramener en arrière, mais continuer à progresser avec Dieu pour que mes progrès soient évidents de tous. Il est important que cette parole continuellement que je lis, que j'entends, elle puisse tomber sur un bon terrain, afin d'être équipé. Je le répète, pour résister au diable et à ses mensonges. Le premier terrain, le Seigneur le dit, nous l'avons lu, c'est un terrain qui est dur. Un terrain qui est dur. Et il est écrit que quand le semeur va jeter sa semence, une partie de la semence, pas toute la semence, une partie de la semence va tomber le long du chemin. Pour des tas de raisons, parce que le champ qu'il est en train de cultiver est bordé d'un chemin. Et en jetant la semence, bah, ça peut tomber à côté. Puis il y a le vent aussi qui peut pousser la semence sur le terrain, sur le chemin, pardon. Et donc, ce chemin, ce terrain est dur. Et malgré que la semence, d'une manière très accidentelle, pas voulu, ce serait étonnant qu'un semeur dise, tiens, je vais semer sur le chemin. Bon, ça m'étonnerait. Hein? Donc, ça ne se fait pas. Mais elle peut tomber accidentellement sur ce terrain. Mes frères et sœurs, quand nous prêchons l'Évangile d'une manière ou d'une autre, quand nous prêchons la parole de Dieu, parfois, il arrive qu'accidentellement, la parole tombe en dehors du terrain. Accidentellement, pour des tas de raisons. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années de cela, alors que je prêchais l'Évangile dans une petite salle, il y avait quoi ? C'était une petite annexe, il devait y avoir une quinzaine de places assises, petite annexe. Et on y prêchait régulièrement, un jour de la semaine, en milieu d'après-midi. Et il y avait là quelques personnes qui venaient écouter l'Évangile. Mais c'était très compliqué de gagner des âmes, là, dans cette petite annexe. Mais quand on prêchait l'Évangile, que ce soit mes collaborateurs ou moi-même, on le faisait de tout notre cœur, de la même manière que quand on était dans l'église principale. Tout simplement. Et un soir, du moins un après-midi, alors que je prêchais l'Évangile, cette petite salle avait une particularité, donc elle était dans une ruelle, et il y avait l'entrée de l'église, et juste à côté de l'entrée de l'église, il y avait un couloir, on était en location, en copropriété, là. Il y a un petit couloir qui montait dans les appartements au-dessus, et le petit couloir en question, et ça, cette affaire-là, ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois, ce petit couloir en question avait une porte qui donnait sur la salle, mais c'est une porte qui était condamnée. Et alors que je prêchais l'Évangile de tout mon cœur, ce jour-là, c'était compliqué. Il y avait une opposition, mais encore terrible, ça arrive parfois. Il n'y avait pas de personne nouvelle, il y avait moins de monde que d'habitude parce que certains ne pouvaient pas venir ou étaient malades, etc. Mais c'est pas grave, j'y ai mis tout mon cœur. Mais vraiment tout mon cœur, quoi. Je ne me suis pas dit, il y en a trois, je vais baisser d'intensité, j'y ai mis tout mon cœur, comme d'habitude, tout mon cœur. Prêcher le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Je n'ai pas changé le message. Et à la fin de la réunion, je m'en vais. Et c'est la réunion suivante, je vois une personne nouvelle rentrer dans la salle. Et là, cette personne s'assoit et entend l'Évangile. Et elle vient me voir à la fin de la réunion, elle me dit, « Monsieur le pasteur, pendant des années, je suis passé devant cette salle. Et je voulais vous dire que j'habite juste au-dessus. Et la semaine dernière, à la même heure, vous avez des réunions tous les jours à la même heure, nous le savons. Et la semaine dernière, je suis rentré de mes courses, je suis passé dans le hall, dans le couloir du bâtiment. Et là, j'ai entendu un mot qui m'a arrêté. Un mot. Je ne me rappelle plus lequel. Un mot dans ma prédication. Et là, elle a dit, j'ai pas pu faire autrement, j'ai été comme scotché et j'ai eu envie d'écouter un peu plus. Ça a attiré toute mon attention. Ça a poussé ma curiosité. Et là, elle a mis son oreille contre la porte. Et moi, je ne pensais qu'il n'y avait aucune personne nouvelle. J'étais en train de semer l'Évangile. Et sans m'en rendre compte, eh bien, l'Évangile, la semence, est allée au-delà du terrain qui était devant moi. Elle est allée sur un autre terrain, de l'autre côté. Mais là, le terrain n'était pas dur. Le terrain était ouvert. Alléluia. Ça m'est arrivé également dans le centre de la France. Nous avions réussi à avoir à l'époque une salle dans la mairie pour annoncer l'Évangile une fois par semaine ou tous les 15 jours dans une petite ville dans l'Allier qui s'appelle petit village, enfin, petite ville on va dire, Cône d'Allier. Et là, on a ouvert ce lieu, la mairie, le maire qui était un communiste acharné, m'a dit, monsieur le pasteur, vous pouvez annoncer l'évangile. Ça, c'est un miracle, ça. Et il m'a dit, on vous ouvre la salle. Et cette salle avait une particularité. Elle était coupée en deux par un rideau en accordéon, vous savez, qui se clippe. Voilà. Paf. Comme ça. Et c'était donc une grande salle. Mais elle était coupée en deux. Une moitié était pour nous, et puis l'autre moitié, voilà, elle nous était pas réservée. Et là, ce soir-là, je viens, je prends ma guitare, je commence à conduire les chants, l'évangile, je prêche l'évangile. Il n'y avait pas beaucoup de monde encore ce soir-là. Mais je m'étais pas rendu compte de ce que le Seigneur était en train de faire, alors que je jetais la semence dans l'endroit où j'étais, qu'une partie de la semence allait tomber ailleurs. Et ce soir-là, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait un conseil municipal juste derrière le rideau. Et pardonnez du peu, avec la voix que j'ai pas besoin de micro. Et au début, j'entendais parler. Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas trop appuyer, je pense qu'il y a du monde derrière. Mais je ne savais pas que c'était un conseil municipal avec le maire communiste, avec son équipe communiste et plus les opposants. Et donc là, j'entends parler tout au début. Et pendant qu'on chantait, j'entendais parler. Je dis, bon. Et au moment où j'arrête de faire chanter, j'ai dit, on va ouvrir la Bible, à ce moment-là, j'entends plus rien. Et j'entends pas les gens sortir, parce que tout s'entendait, c'était très, très, très fin, très mince. Et je prêche l'évangile. Et bien, pendant toute la réunion, cette semence que je jetais là, elle est allée au-delà. Elle est tombée dans le cœur du maire, dans le cœur de ses adjoints, dans le cœur de plusieurs personnes qui même se sont arrêtées dans le couloir de l'autre côté, et des femmes de ménage qui s'arrêtaient pour coller l'oreille contre la porte. Et le Saint-Esprit a fait son œuvre. Alléluia. Et je pourrais ainsi passer des heures à vous raconter ce genre de témoignage. Le gros problème ne vient pas donc de la semence. Elle peut tomber fortuitement à côté du lieu dans lequel on la jette, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a tel contexte, vous l'avez compris. Mais le problème, c'est que très souvent, le terrain peut être dur. Et j'aurais pu donner des témoignages où il n'y a pas le même résultat, parce que les cœurs étaient durs, le terrain était dur. Pourquoi il est dur, le chemin? Parce que les personnes, puisqu'on parle de personnes, de cœurs, vont laisser passer et repasser tout ce qui vient de l'adversaire continuellement dans leur vie. Quand vous avez remarqué, il m'arrive moi de faire des randonnées, je sors un petit peu des sentiers battus, comme on dit, et je passe dans des endroits, mais à un moment donné, je suis un petit peu désorienté parce que j'ai plus du tout de repères au sol, il n'y a plus de repères de randonnée parce que je suis sorti, je suis allé ailleurs, et là, je marche, mais à un moment donné, là, alors qu'on dirait, mais personne n'a pu passer par là, on voit que des personnes sont passées. Le terrain est tracé. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, repassés et repassés encore. Mais il y a une différence, et j'ai remarqué, puisque m'appuyant sur ce texte, alors j'en profite, je reste éveillé, dans le sens que je dis, tiens, là, il y a une matière à réflexion, et je me rends compte que sur ce terrain, les gens sont passés au même endroit, on ne va pas dévier, on passe tous au même endroit, à droite et à gauche, le terrain, il n'est pas dur, il est ouvert. Il est prêt à recevoir une semence. Tandis que là où nous avons marché, on peut jeter la semence, elle ne prendra pas. Elle ne prendra pas. Parce que les oiseaux du ciel, ils vont venir et ils vont la manger. Ils vont la prendre. Et les oiseaux du ciel représentent l'adversaire. C'est-à-dire que, en même temps, eh bien, il y a ceux qui passent et qui repassent et qui rendent dur le terrain. Et en même temps, l'adversaire, lui, termine le travail. Quand la semence arrive, il va tout faire pour que la parole de Dieu, l'évangile, ne produise aucun effet, comme ça peut être le cas ce matin pour des tas de raisons, ou que ça peut être le cas dans quelques réunions que ce soit. Mais quand il en est ainsi, eh bien, c'est grave, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est endurci. On a endurci, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu que le terrain soit dur. C'est le terrain de l'homme sans Dieu. Ou de l'homme qui s'écarte de Dieu. Ou de l'homme qui n'obéit plus à Dieu. Ou de l'homme qui se contente d'une petite vie spirituelle qui ne va pas aller bien loin. Le Seigneur veut nous mettre en garde afin que notre cœur ne s'endurcisse pas. Et on voit que le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, quand il accomplissait des miracles à tel endroit, faisait des choses extraordinaires, ça se multipliait, mais il y a des endroits où le Seigneur n'a pas pu faire grand-chose, à cause de quoi ? À cause de l'incrédulité des cœurs, et à cause du fait que les cœurs étaient durs. Quand le Seigneur voit que les cœurs sont durs, parce que lui regarde au cœur, on le sait, quand il voit que le terrain de notre cœur n'est pas ouvert et qu'il est dur, il ne pourra rien faire. La parole de Dieu, vous l'entendrez, mais elle ne produira rien. Alors qu'elle doit produire du fruit, on l'a vu. Endurcir notre cœur. Certains cœurs se laissent trop souvent piétiner. Certains cœurs se laissent trop souvent endurcir par tout ce qui passe et qui repasse sur eux, au travers de ce qu'ils voient, au travers de ce qu'ils entendent. Et ils finissent, je l'ai dit, par s'endurcir. Et les personnes qui sont ainsi, c'est les personnes qui se laissent influencer. Les Galates ont été ainsi. Ils ont reçu à un moment donné la parole, la semence de l'évangile venant de Paul, avec un cœur ouvert. Et puis à un moment donné, des judaïsants sont arrivés et ont commencé à dire ce qu'ils avaient envie de dire. Et les Galates, eh bien, les ont écoutés. Et l'apôtre Paul va leur dire, mais qui vous a fasciné? Qui vous a arrêté? Qui vous fait reculer en arrière? Autrefois, vous étiez avec un cœur, un terrain ouvert, et là, votre cœur s'est rétréci, votre cœur s'est endurci. Votre cœur n'est plus accessible. Mais qui vous a fasciné? Qui vous a arrêté? Mes frères et sœurs, le seul qui doit, je dirais, attirer notre attention, c'est Jésus-Christ, sa parole, la vérité, pour que je l'utilise correctement pour faire face à l'adversaire de mon âme. Les personnes donc se laissent ainsi influencer et ils ont du mal à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trouve aucune entrée, elle ne peut produire aucun effet, aucun fruit. Et je l'ai dit tout à l'heure, les oiseaux finissent le travail, hein, ça représente l'action du malin qui parvient à faire en sorte que le message reçu ne puisse en aucun cas porter son fruit de salut et de délivrance. Alors quand c'est ainsi, eh bien on n'est pas du tout équipé. On n'est pas du tout rempli. On n'est plus du tout attaché à ce qui est solide, la parole de Dieu. Alors on devient influençable. Ou on demeure influençable. On devient vulnérable. Ou on demeure vulnérable à toutes les attaques de l'adversaire, comme nous l'avons lu à plusieurs reprises dans Éphésiens chapitre 6, parce que le diable, lui, ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille, lui qui garde Israël. Mais, mes frères et sœurs, le diable non plus. Hein. Ne vous leurrez pas, hein. Quand vous vous couchez, il ne se couche pas non plus. Hein. Vous, vous vous couchez, lui, non. Mais le Seigneur veut nous montrer qu'il veille. Mais nous aussi, nous devons veiller. Veiller et prier. Alléluia. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Laissez la parole accomplir son œuvre. Le deuxième terrain, nous l'avons lu, ce n'est pas un terrain dur. Je l'appelle un terrain superficiel, superficiel, superficiel. Parce que cette autre partie qui tombe, elle tombe dans les endroits pierreux. Il n'y a pas beaucoup de terre. Il n'est pas écrit qu'il n'y a pas de terre. Il est écrit qu'il n'y a pas beaucoup de terre. En définitive, le sol ici, au départ, il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Il n'est pas dur, mais il est constitué d'un léger revêtement de terre sur un fond plus ou moins pierreux. Et là, quand la semence, elle va tomber, bien sûr qu'elle va trouver un peu de terre sur quelques centimètres. Elle va donc dire, après tout, si je puis dire que le germe ou la semence m'a parlé, non, mais c'est pour imaginer la chose, elle va pouvoir produire quelque chose. Elle va trouver un peu de terre. Mais en définitive, la semence, elle va avoir du mal à dégager toute la vie qu'il faut dégager. Ça va être difficile. Elle ne va pas trouver un moyen de s'enraciner. Pour que la vie sorte, il faut que les racines s'implantent. Et donc, elle ne va pas y arriver lorsque la tige va quand même un petit peu sortir. Les racines vont essayer à faire un petit peu leur travail, mais la tige commence un peu à sortir. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait soleil, il fait chaud, il y a tous les éléments de l'extérieur, et elle va être rapidement séchée, elle va être rapidement brûlés par le soleil. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reçois la parole par rapport à cette deuxième image, ce deuxième terrain, si la parole de Dieu tombe dans mon cœur et qu'il y a quand même une petite écoute, il y a quand même une petite disposition qui n'est pas si mauvaise que cela. Cette parole, donc, effectivement, elle va tomber, elle ne va pas être, par contre, par rapport au premier terrain, elle, là, cette semence, elle va pas être enlevée tout de suite. Mais elle va produire quelques heureux effets, quelques effets attendus de la part de la semence. Parce qu'il est écrit qu'elle est reçue, la semence, la parole, aussitôt, au moment où elle tombe. Alléluia! Bien sûr, c'est bien, c'est pour ça que je dis à lui, elle est reçue aussitôt avec joie, et c'est normal, parce que normalement la parole de Dieu, elle produit pas la tristesse, elle produit la joie. Quelqu'un qui n'en retire pas la joie, ben, je me demande ce qu'il comprend à la parole, il comprend pas. Peut-être parce que ça bloque dans son cœur, il s'est verrouillé, je ne sais pour quelle idée, mais elle produit la joie. Elle est reçue avec joie, la vérité. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se fier aux premières apparences, parce qu'elles peuvent être trompeuses. Si les sentiments naturels sont seuls en mouvement, je dirais, quelque part, eh bien, malheureusement, il n'y a parfois aucune œuvre intérieure salutaire qui ne se produit. On a l'impression que la personne, ça y est, c'est bon, elle va tenir bon, la parole de Dieu est ancrée, c'est bon, ça porte quelques fruits, on voit la tige, oui, gloire à Dieu, c'est formidable, on va la voir progresser, aller de l'avant, tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Mais quelques jours plus tard, quelques semaines, parfois quelques mois, parfois même quelques années. Rien à voir avec la semence qu'on jette en terre. Là, il y a parfois du temps qui passe. On se rend compte qu'il n'y avait pas de racines. On se rend compte en définitive que, comme le dit Jésus, eh bien la conviction de péché, le sentiment d'une profonde misère morale, ne produisent pas d'abord la joie, mais vont s'éteindre quelque part par le fait qu'il y a trop de superficialité. Alors c'est quoi? C'est un abandon, un retrait, un recul. C'est vrai qu'au départ, la conviction de péché, le sentiment d'une profonde misère morale, va produire une tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance pour rappeler ce que Paul dit aux Corinthiens, mais en même temps, ça va produire quand même une humiliation dans le cœur. Je m'humilie sous la puissante main de Dieu. Et quand je lis dans Actes 2, 37-38, alors qu'ils ont entendu l'évangile, plusieurs hommes qui sont là ce jour-là, à l'écoute de Pierre qui prêche l'évangile, lui, Pierre baptisé dans le Saint-Esprit, là, prêchant à Jérusalem, il nous est dit que leur cœur, le terrain, a été vivement touché par l'évangile. Le terrain de leur cœur a été vivement touché par la semence. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas en rester là. Ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres, écoutez, notre cœur est bouleversé, touché. Il est percé, il est transpercé par l'évangile. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Changez de mentalité. Laissez l'Esprit de Dieu vous amener à ce changement de mentalité. Que vous puissiez devenir de nouvelles créatures, les choses anciennes passant, toutes choses devenant nouvelles. Autrefois, vous étiez irrités, irritables. Aujourd'hui, ça change. Autrefois, vous étiez dans la haine, aujourd'hui vous êtes dans l'amour. Autrefois vous étiez dans la colère, et aujourd'hui vous êtes, eh bien, dans la paix de Dieu. Hier vous étiez donc coincé, anéanti par le diable qui vous assujettissait. Aujourd'hui vous êtes libre en Jésus-Christ. Et quand il en est ainsi, alors effectivement, eh bien, ce désir d'aller plus loin, d'être baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'engageant d'une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire quelque chose. Je ne vais pas me faire baptiser parce que quelqu'un s'est fait baptiser, parce que ça ferait partie d'une liturgie, d'une tradition évangélique pentecôtiste, non, ou protestante, non. C'est parce que il y a une réalité qui va durer. Et j'en parlais effectivement vendredi par rapport à cette école de formation de disciples, parce que vous avez tous besoin d'être formés, mes frères et sœurs. Autant que moi-même. Et dans ce mouvement des Assemblées de Dieu de France, tout est en place pour recevoir une formation de qualité spirituelle, doctrinale, sérieuse, d'enracinement spirituel, pour que vous ne soyez pas portés et emportés à tout vent de doctrine, et je ne sais vers qui ou vers quoi, mais que vous puissiez vous attacher à Dieu et à ce à quoi il vous appelle. Et voyez-vous, ces hommes, eh bien, ont tout fait pour écouter ce que disaient les apôtres, car ça venait de Dieu. Il n'y avait pas une apparence trompeuse. Ça aurait pu. Ça me fait penser à un homme, toujours dans le livre des Actes, ce témoignage me vient à l'esprit, acte 8, quand Philippe va prêcher l'évangile en Samarie. Vous voyez peut-être ce que je vais souligner. Hein ? Il va prêcher l'évangile en Samarie, il va être au contact d'hommes et de femmes dans cette ville de Samarie, qui était malheureusement, eh bien, possédé d'esprits impurs. Il y avait beaucoup de paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des gens dans la misère, il y avait des gens liés par le diable, liés par les œuvres des ténèbres, trompés par les mensonges du diable. Bref, que de misère. Et quand Philippe vient pour annoncer l'évangile, parler de Jésus-Christ, jeter la semence, certainement qu'au plus profond de lui-même, comme moi je le fais, même pendant que je prêche, vous en rendez pas compte, pour que vos cœurs soient un très bon terrain, ça sera ma conclusion très simple et très rapide. Mais ceci étant dit, eh bien, quand Philippe, l'évangéliste, prêche, sème l'évangile, la Bible nous dit, l'Écriture nous dit, que ces gens, eh bien, écoutaient attentivement, et ils ont vu les miracles qui font suite à l'annonce de l'évangile. Mais pourquoi ils étaient comme ça? Parce qu'il y avait au milieu d'eux un homme qui se nommait Simon, qui exerçait la magie, qui provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ils étaient tous là à l'écouter régulièrement, jour après jour. Et même ils s'en sont arrivés à dire, mais celui-ci, ce Simon-là, il est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Comme s'il y en avait une petite. Mais ils mélangeaient tout. Ils avaient été étonnés par les actes de magie de cet homme, les actes de sorcellerie, les actes occultes qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Et Dieu sait que dans ce pauvre département du Tarn, les Tarnais sont malheureusement engouffrés là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle vous, mes frères et sœurs, vous devez être bien équipés pour faire face à l'adversaire qui va tout faire ici à Groyer pour vous bloquer, verrouiller et pour vous amener parfois même à vous écarter. Et même, il poussera, s'il le faut, qui que ce soit, à diviser l'Église. Mais Dieu ne le permettra pas. Et mes frères et sœurs, ce jour-là, Dieu va intervenir. Alléluia ! Dieu va intervenir. Et quand l'Évangile va être prêché, eh bien, ils vont être délivrés, ils vont être guéris, ils vont être relevés. Et la Bible nous dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville, parce que les cœurs étaient ouverts. Et si vous vous sentez abattu, écrasé, c'est peut-être parce que votre cœur n'est plus ouvert à la parole. C'est parce qu'il ne reçoit plus, il ne reçoit plus favorablement la semence de l'Évangile. Et vous êtes étonné par des gens, par des principes, par des idées qui ne vont pas dans le sens de l'Écriture. Vous devez plutôt vous laisser toucher par la vérité de l'Évangile et l'Esprit de Dieu qui tape dans votre cœur le jour, la nuit, ici, et même quand vous n'y êtes pas, de toute façon j'ai dit le jour et la nuit, là où vous êtes. Alléluia, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. La conversion, elle passe par la repentance sincère et la confession des péchés. Et la parole est donc reçue avec joie, mais cet enthousiasme par rapport à ce terrain qui est superficiel est éphémère à cause de quoi? Eh bien, je l'ai dit, à cause du manque de persévérance. Peut-être étouffer avec intérêt, avec joie même, et vouloir produire pourtant de bonnes résolutions, mais là c'est étouffé, c'est écrasé, il n'y a pas de persévérance. La chaleur desséchante des épreuves arrive, parce que vous le vouliez ou pas, vous connaîtrez encore des épreuves, mais si vous êtes avec Christ, Christ viendra vous secourir. Si vous laissez la parole vous toucher, elle vous soutiendra, elle vous portera, elle vous nourrira, elle vous enthousiasmera. Mes frères et sœurs, l'épreuve révèle que la vérité ici, dans ce terrain, n'est pas enracinée. Quand l'épreuve vient, c'est là que l'on voit si quelqu'un est enraciné en Christ. Quand l'épreuve vient, quand les vents sont contraires, c'est là qu'on voit par rapport à la réaction que l'on a, si on est attaché à la parole, si on utilise vraiment l'épée de l'Esprit, si on utilise vraiment toutes les armes de Dieu, si on est vraiment en connexion avec l'Esprit de Dieu. Dès qu'il y a une épreuve, il y en a trop qui lâchent. Dès qu'il y a une épreuve, il y en a trop qui abandonnent. Dès qu'il y a une épreuve, une opposition, un vent qui souffle d'une manière contraire, ils disent « Mais pourquoi, pourquoi ?» Ne dites pas pourquoi, ça appartient à Dieu. Dieu sait, il permet pour que notre foi soit beaucoup plus forte et que peut-être la dureté d'un cœur s'arrête, peut-être que la superficialité d'un cœur, d'un terrain cesse. Parce que quand ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas de fruit. Les moqueries, l'opprobre, l'opposition du monde font disparaître ce qui n'était qu'apparent. Mes frères et sœurs, vous rencontrerez des moqueurs, vous rencontrerez de l'opprobre, vous rencontrerez de l'opposition dans ce monde de ténèbres. Mais celui qui est en Christ, il est fort. La tribulation ou la persécution revient à parler de ce fameux mauvais jour que Paul cite, Éphésiens 6, pour dire qu'il faut prendre toutes les armes. Et si jamais je m'arrête, je le dis et je le répète, parce que je sens qu'il faut le faire, ça révèle vite un manque de racines. Le troisième terrain, et l'avant-dernier, et le dernier, je serai très rapide, c'est, je l'appelle cette fois-ci, le premier il est dur, le deuxième est superficiel, et le troisième, je l'appelle préoccupé. Occupé par autre chose. Occupé par autre chose. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Et ici, la semence, elle aussi, celle-ci, jetée dans ce terrain, préoccupée, prend racine. La tige, elle monte, mais elle reste sans fruit. Pareil. De nouveau, comme le deuxième terrain. Pourquoi ? Non pas à cause des pierres. Ici, le terrain en question, il est excellent. Seulement, il n'a pas été dégagé de tout ce qui va étouffer la semence. Vous avez déjà vu un agriculteur, vous, ne pas préparer son terrain avant de mettre la semence ? Jamais. Et c'est étonnant que, sur le plan de la vie, je dirais de tous les jours, sur les choses que nous voyons, que nous connaissons, on sait comment fonctionne l'agriculture, même si on n'est pas des agriculteurs. On sait que c'est normal qu'un agriculteur travaille sa terre, la prépare, l'aère, etc. Fasse toutes les manœuvres qui doivent être faites avant d'ensemencer le terrain. Et on dit, mais c'est normal. Si on voyait un agriculteur faire autrement, on dirait, mais il n'est pas allé à la bonne école. Hein. Il n'a pas été formé correctement. Puis il ne va pas récolter grand-chose et il ne va pas tenir longtemps. Si c'est normal sur ce plan-là, pourquoi ça ne serait pas normal, comme dit Jésus, sur le plan de notre cœur ? Tout ce que le Seigneur a créé, tout ce que le Seigneur a mis en place, ça nous donne un enseignement, ça nous instruit, toute sa création nous instruit. Et là, c'est le cas. Le terrain en question, donc, il va être occupé par autre chose parce qu'il n'a pas été nettoyé. Ou peut-être parce qu'il a été peut-être un peu délaissé. Il n'a pas été pris en main correctement. Je l'ai laissé un petit peu, là, vagabonder, faire un petit peu les choses, c'est pas bien grave, le temps passe, bon ben, c'est la vie. Non. Préoccupé, occupé par autre chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en définitive, sur ce terrain, par rapport à la semence, il y a de la concurrence. Une concurrence qui ne fera pas de cadeau. Vous dire, mais alors c'est bizarre parce que la parole de Dieu devrait être plus forte que la concurrence. Oui. Une manière de penser. Et le Seigneur permet que nous comprenions qu'au départ, quand la semence de la parole est jetée, elle est embryonnaire, elle a la vie, mais elle ne dépend pas que de Dieu. Elle dépend de vous, elle dépend des hommes, de la manière dont ils vont la réceptionner. Soit ils sont durs, on a compris, ça aboutira à rien. Soit, eh bien, c'est superficiel, il y a des cailloux au fond, ça n'aboutira à rien. Et ici, soit parce que elle est préoccupée, mon cœur est préoccupé, occupé, il y a de la concurrence, ce terrain donc peut avoir de la bonne terre, mais elle est occupée par autre chose, des ronces, des épines, et le problème de cette terre n'a pas donc, je le répète, été suffisamment nettoyée. Et Luc, chapitre 8, verset 7, nous dit, les épines crûrent, vont croître avec la semence. Elles vont croître avec la semence. Alors bien sûr qu'il y a une autre parabole, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais c'est intéressant après de passer de celle-ci à cette parabole en question, c'est la parabole de l'ivraie et du bon. Et du bon grain. J'y viendrai très certainement. Parce que là, il faut arriver à comprendre aussi quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser, mais Dieu maîtrise toutes choses. Mais là, je ne parle pas de l'ivraie, qui, d'une manière extérieure, ce n'est pas mon sujet, mais d'une manière extérieure, très rapidement, moi qui suis néophyte dans la partie, je ne vais pas faire la différence entre de l'ivraie et du blé. Je vous mets au défi, si vous n'êtes pas expérimenté, de faire la différence entre les deux dans un champ. C'est très compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet. Ici, on ne parle pas de l'ivraie. Je parle de ronces, d'épines, de choses qui ne devraient pas être sur ce terrain. Les épines vont croître avec la semence. Et la terre, elle devient stérile. La parole de Dieu semble avoir été dans ce terrain, comme dit Jésus, elle a été reçue, elle produit un certain effet, désir d'apprendre, recevoir un peu plus. Là, par contre, ça prend un peu plus de temps encore. Là, le dur, c'est bon, c'est rapide. Malheureusement, le superficiel, ça va être quand même assez rapide, un peu plus long, mais assez rapide dans ses effets négatifs. Et puis là, par contre, ça va être un tout petit peu plus long. Parce que le cœur s'entretient. Garde ton cœur. Protège-le. Veille sur lui, plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les pensées de la vie. Alors on veut apprendre. On veut recevoir un peu plus. On veut avancer pour la gloire de Dieu. On dit, je suis là pour servir le Seigneur. Oui, ne vous inquiétez pas, pasteur, j'ai compris. On va avancer, on va gagner des victoires, on va remporter effectivement des combats. Il y a comme un bruit, il y a là un bruit qui annonce, qui manifeste en soi quelque part la vie. La vie de Dieu, bien sûr. Mais la semence, on se rend compte à un moment donné qu'elle ne grandit pas, qu'il n'y a pas de progression, qu'à un moment donné, pour une chose ou pour une autre, tac, ça se bloque. Alors le cœur n'est pas dur, gloire à Dieu. Le cœur n'est pas superficiel, il n'y a pas de pierre, gloire à Dieu, mais il est préoccupé par autre chose. Et le problème, c'est pas seulement des gens qui viennent du dehors, je ne parle pas d'eux, je ne parle pas seulement d'eux, je parle de vous tous et de moi-même, de tout chrétien, de tout disciple. La semence ne grandit pas, ne croît pas, ne se développe pas. Et c'est des choses qui sont dans le monde, qui reprennent le dessus. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Si tu peux l'afficher, on va le lire. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean de la part du Seigneur ? N'aimez point le monde, ni les choses... Alors le monde, on se comprend, vous comprenez ce que veut dire ce texte, j'espère. Sinon, je pourrais vous l'expliquer en aparté, mais très rapidement. C'est l'état d'esprit du monde. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire vos courses au supermarché. N'aimez point le monde, son état d'esprit par rapport à Dieu, à la sainteté de Dieu, etc., la parole de Dieu, justement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et voilà ce que dit Jean de la part de Dieu. Si quelqu'un aime cet état d'esprit-là, eh bien l'amour du Père ne peut pas être en lui. C'est clair, hein ? Et verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ce qu'aime la chair, la convoitise des yeux, mes yeux, par là que ça passe, mais ça va, c'est là que je peux tomber dans la tentation. L'orgueil de la vie, moi je suis, ne vient point du Père, mais vient du monde, de l'état d'esprit du monde. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça ne grandit pas parce que parfois il y a cet état d'esprit qui revient et ça se lève dans le cœur. À côté de la parole, ça apporte une concurrence. Et ça va prendre petit à petit ces choses-là, cette mentalité-là qui peut revenir dans le cœur d'un croyant, d'un disciple de Christ qui ne veille pas, qui ne prie pas, qui n'obéit pas au Saint-Esprit, ça va reprendre le dessus. Ça va reprendre le dessus. Et comme ça reprend le dessus, ben ça va étouffer la parole. Pourtant au départ, je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié, je l'ai entendu, j'ai dit, quel merveilleux prédicateur, je parle pas de moi, hein, quel merveilleux pasteur, oh il a bien fait de venir, puis quelques jours plus tard, bam! C'est tout à fait le contraire. Les soucis qui reprennent le dessus, l'attrait du matériel, du matérialisme, les attraits trompeurs des richesses, les difficultés de la vie. Nous l'avons lu tout à l'heure, verset 22, le Seigneur dit, mais celui qui entend la parole, eh bien, c'est celui-ci par rapport à ce terrain, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis de ce siècle. Les soucis de ce siècle. Ils peuvent préoccuper, tourmenter l'esprit des hommes, c'est quelque chose de régulier, les stresser, les rendre malades, les empêcher de dormir, pour dormir, de prendre quelques petits cachets pour les aider. À part d'être suivi par un médecin pour ça, eh bien, il faut le faire, bien sûr, mais je parle de ceux qui ont tendance à s'installer dans cette situation-là. Je ne parle pas de ceux qui ont besoin d'être aidés sur le plan médical, mais je parle de ceux qui ont tendance à s'installer facilement dans cette affaire-là pour essayer à échapper à certaines bien culpabilités qui s'installent, des autoculpabilisations. Mais tout cela préoccupe et tourmente les soucis de ce siècle. Et le désir d'avoir une place en vue dans ce monde. D'être quelqu'un dans ce monde. C'est ce que désirent beaucoup d'hommes et de femmes. D'y avoir une place en vue. Ça va étouffer en eux, si c'est le cas d'un chrétien, eh bien tout ce qui est du domaine spirituel, parce que Jésus n'avait rien pour nous plaire. Mes frères et sœurs, Jésus n'avait rien pour nous plaire. Et ces divers terrains productifs, eh bien, ne concernent pas, je l'ai dit et je le répète avant de terminer, que les éventuels incroyants, mais chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque disciple de Christ doit veiller afin que leur état intérieur ne ressemble pas et se trouve à tout cela, ils se trouvent dépourvus de cette arme spirituelle qu'est l'épée de l'esprit. Et puis, ma conclusion, elle est rapide. En définitive, la bonne terre, c'est la terre favorable, hein, le terrain favorable, tout simplement. La semence, elle tombe sur une terre labourée. Le Saint-Esprit passe par là. La parole de Dieu peut ainsi prendre racine. C'est le cœur qui reçoit la parole. Paul dira dans 1 Thessaloniciens, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. On l'a reçu au milieu de beaucoup de tribulations, mais ça n'a pas empêché qu'elle se développe. Et puis également, quand Paul est auprès de ses femmes, auprès d'une rivière, il va parler aux femmes qui étaient réunies, acte 16, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur, le terrain, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Elle n'a pas dit au Seigneur, je ne veux pas, arrête, je n'en veux pas, ça m'intéresse pas. Non, elle a ouvert son cœur, et ça lui a fait du bien, et elle est devenue une femme de Dieu remarquable. Alléluia. L'évangile n'est pas seulement entendu, mais l'évangile est aussi normalement compris dans tout son sens. Et Jésus veut nous donner la force de porter beaucoup de fruits. Jean 15, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. On a besoin de l'épée de l'esprit écrite et faite chair en Jésus dans nos vies pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu qui portent du fruit selon nos possibilités. Un grain 30, un autre 60, un autre 100. Mais l'essentiel, c'est de porter du fruit. Prenez garde à ce que vous entendez, Marc chapitre 4. Prenez garde à la manière dont vous écoutez le message de Dieu, Luc chapitre 8, verset 18. Et tout cela vous permettra d'être fort et bien enraciné avec la parole qui fera son effet et qui portera du fruit. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir et t'apporter notre reconnaissance, notre Dieu, notre Père. Nous voulons, Père, te dire un grand merci, en effet. Parce que tout au long de ces semaines, nous avons fouillé dans ta parole. Nous avons, Seigneur, pris le temps d'y réfléchir. Nous avons pris le temps de la laisser agir dans notre cœur, dans notre vie intérieure, dans notre terrain intérieur. Et je prie pour que tout ce qui a été annoncé, ceux qui l'ont entendu, ceux qui le réécoutent sur le site, ceux qui vont l'écouter sur le site pour les premières fois, Père, puissent être percutés par le Saint-Esprit, bouleversés, et qu'ils se rendent compte que là, il y a une position, une attitude à avoir, spirituelle, et toi seul, tu peux leur donner la force de l'avoir et de la garder pour porter du fruit, une fois qu'ils sont passés par la repentance, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont ensuite passés également par les eaux du baptême. C'est un acte d'obéissance, alléluia, d'une conscience qui a été changée, transformée, d'une bonne conscience envers Dieu. Seigneur, fais éclater ta gloire, encore dans cette église, dans nos églises, dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.